à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Hubert de Rochambeau, bonjour.
Bonjour Bruno.
Hubert de Rochambeau, vous avez eu une carrière de scientifique toute votre vie. Vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut National de la Recherche Agronomique, et l'EEC.
Donc agronomique, alimentation et environnement.
Et environnement. Vous avez été président de l'INRAE à Toulouse, puis à Bordeaux. Vous êtes aujourd'hui à la retraite. Vous avez deux enfants et vous fréquentez, je crois, en fait, la paroisse des Dominicains qui est à Rangueil. Vous avez pris vos habitudes du côté des scientifiques de Rangueil. Et vous avez participé avec les Dominicains, notamment avec le père Jean-Michel Maldamé, à un groupe de réflexion qui s'appelle Science et Foi. Et c'est pour ça qu'on... Je vous ai demandé de venir parler de cette thématique avec nous, et notamment de la fameuse encyclique du pape François qui s'appelle Laudate Si, qui aborde ces questions environnementales et scientifiques. Donc on va en parler ensemble. Donc merci Hubert de Rochambeau d'être venu partager ce moment avec nous. Et je vais vous demander d'abord de vous présenter un petit peu, parce que votre parcours de scientifique est très intéressant de mon point de vue. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu, quelques mots?
Donc en fait, moi je suis ingénieur agronome, donc agro-paritech. Et j'ai d'abord été enseignant-chercheur à Agro-Paritech quelques années en production animale, en génétique animale. Et ensuite, en 1983, je suis arrivé à Toulouse au niveau du département de génétique animale. Et notre objectif, en fait, c'était de créer du progrès génétique dans des populations d'animaux domestiques.
Est-ce que du progrès génétique, ça a quelque chose à voir avec les OGM, les manipulations génétiques?
Alors, dans la plupart des cas, non. En fait, c'est créer du progrès génétique en faisant reproduire les animaux d'une manière tout à fait naturelle et en choisissant les meilleurs, en fait. À chaque génération, prendre les meilleurs, ce qui permet d'améliorer la population. Voilà. Donc, c'est des méthodes qui sont ancestrales, qui sont pratiquées depuis qu'il existe de l'agriculture. En fait, les agriculteurs ont toujours fait ça. Bon, maintenant, on a fait ça d'une manière un peu plus efficace.
Un peu plus scientifique.
Voilà. Et donc, cette thématique du progrès m'a toujours interrogé. Et c'est vrai que dans les années 70, au moment où j'ai fait mes études, le progrès était une certitude partagée par tout le monde. On était tous persuadés que demain serait meilleur qu'aujourd'hui.
Parce que vous ne l'êtes plus aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions en fait. Et si on regarde ce qui s'est passé au niveau de l'agriculture, on s'aperçoit que depuis 40 ans, on a fait beaucoup de progrès. On arrive à alimenter à peu près correctement la population.
Mondiale,
le nombre de personnes sous-nutries a baissé. Bon, mis à part ces dernières années. Mais ce résultat absolument superbe a un certain nombre de conséquences nocives. Et notamment, donc, une dégradation de l'environnement, l'épuisement d'un certain nombre de ressources. Ouais. Et donc, je m'interrogeais sur qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pourquoi est-on dans cette crise? Pourquoi ne l'a-t-on pas vu? Et qu'est-ce qu'on peut faire?
Et c'est là que vous rejoignez le groupe de réflexion du frère Jean-Michel Maldamé?
Alors, ça s'est fait un peu avant, puisque j'ai travaillé dans ce groupe, en fait, avant de partir à Bordeaux, donc il y a une quinzaine d'années. Et là, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à opposer la foi et la raison. Et pour un scientifique, c'est un vrai problème, en fait.
Moi-même suis scientifique, c'est souvent une chose qu'on m'a opposée. C'est comment peut-on avoir la foi en étant rationnel, scientifique, puisqu'on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu. Et alors, quelle est votre réponse, Hubert?
Et alors là, la réponse, c'est que les deux sont absolument conciliables. Bon, par contre, il faut travailler un peu et attaquer les problèmes et réfléchir aux problèmes un par un, quoi. Et notamment, j'ai eu l'occasion de suivre ces dernières années à Bordeaux et à Toulouse un certain nombre d'enseignements sur Thomas d'Aquin. Et Thomas d'Aquin a été un des premiers, en fait, à avoir essayé de réintroduire la philosophie d'Aristote et de montrer que ce n'était pas incompatible avec la théologie. Et donc, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé chez les Dominicains, c'est d'essayer de concilier, en fait, ces deux approches en prenant les problèmes un par un et en regardant ce qui marche, ce qui ne marche pas.
on a le sentiment, enfin je ne sais pas si vous le partagez, ce sentiment qu'il y a un retour des scientifiques vers la foi de plus en plus fréquent. Il y a toujours eu de grands scientifiques qui ont partagé la foi, évidemment on peut remonter à Descartes, à Pasteur et à beaucoup d'autres, mais on a le sentiment qu'à notre époque, il y a quand même un retour du scientifique vers la foi chrétienne en particulier, mais pas, sans doute pas que. Est-ce que vous partagez ça?
Ben, je partage cette analyse, et comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Il me semble qu'en fait, face aux problèmes auxquels on est confronté, face à la crise à laquelle on est confronté, il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche de sens. Et parmi les différentes explications qu'on peut trouver au niveau de la philosophie, bon, la religion est aussi une explication, et en fait aide à trouver un sens à notre existence, à notre action, à notre vie de tous les jours.
C'est exactement ce que disent aujourd'hui beaucoup de philosophes, qui disent notre matérialisme nous a éloignés du sens, et croire qu'on va, à travers une approche matérialiste, purement matérialiste, se donner un sens à la vie est une erreur. Les dérives, par exemple, de l'intelligence artificielle telle qu'on le voit, on sent bien que il faut redonner du sens à tout ça, et qu'au fond la religion nous donne le sens, et particulièrement la foi chrétienne. Je pense que vous, si vous êtes là avec moi aujourd'hui, c'est parce que vous partagez avec moi cette vision du monde. Alors justement, le pape François s'est interrogé sur tout ça à travers son encyclique Laudate Si. Qu'est-ce que vous en retenez, vous?
Alors, ce qui m'a vraiment intéressé dans cette encyclique, en fait, c'est qu'elle m'a permis de répondre un peu à mon interrogation sur le progrès. En fait, quel est le progrès sur lequel on peut travailler pour demain? Donc le premier point sur l'encyclique, c'est le fait que, en fait, elle reprend une discipline absolument extraordinaire qui s'appelle l'écologie, qui est aujourd'hui décriée du fait des dérives politiques d'un certain nombre d'hommes politiques, en fait, qui se revendiquent de cette discipline scientifique. Donc je ne parlerai pas de ça, parlerai en fait de l'écologie, discipline scientifique. Et en fait, François et l'ensemble de ses conseillers ont beaucoup travaillé sur cette discipline et ont introduit cette discipline dans la doctrine sociale de l'Église. Ce qu'ils en ont retenu...
Le lien n'était pas forcément évident d'introduire l'écologie dans
Si on regarde très attentivement l'évolution de la doctrine sociale de l'Église, c'est quelque chose qui était en gestation depuis plusieurs dizaines d'années. Ouais. Et que François a fortement accentué. Et en fait, c'est un texte très compliqué, donc je vais simplement donner quelques flashs, quelques éléments qui m'ont particulièrement marqué, sans être exhaustif. Premier point, tout existe car tout est relié. Tout appartient à un système de relations. Je suis ce que je suis car je suis dans un système d'interaction. Donc ça, c'est les bases de l'écologie, et ça, c'est excessivement intéressant, en fait.
L'approche qui dit qu'on ne peut pas dissocier l'homme du reste de son environnement et donc de toute la nature, et que si l'homme ne respecte pas son environnement, au fond, il se coupera lui-même de ses bases.
Tout à fait. Et donc, c'est en fait ce qui a été conceptualisé dans le concept d'écologie intégrale, qu'on peut représenter en fait par des relations entre quatre pôles.
Oui, donc, c'est le chapitre 4 de l'encyclique sur l'écologie intégrale. Et dans le chapitre suivant, il fait le lien entre l'organisation politique, au fond, ce qu'il faut faire, et ce concept d'écologie intégrale. Donc, dites-nous, l'écologie intégrale, à ne pas confondre avec les intégristes de l'écologie.
Ça n'a rien à voir. Donc, l'écologie intégrale, en fait, c'est le fait de constater qu'il y a des relations entre moi, Dieu, les autres et la nature. Et qu'en fait, toutes ces relations sont intimement liées. Et lorsqu'il y a un dysfonctionnement à un niveau, ça perturbe les autres dysfonctionnements.
C'est l'ensemble qui est perturbé.
Et ce que l'encyclique proclame d'une manière très vigoureuse, c'est que la crise en fait écologique et la crise sociale ont les mêmes origines et sont intimement liées. Et on ne pourra résoudre une des crises que si on travaille sur les deux en même temps. Sachant que tout ça, ça peut passer d'abord par une conversion individuelle. La Laudato Si, c'est d'abord un appel à la conversion, à la conversion individuelle.
Oui, parce que il y a dans la jeunesse aujourd'hui et dans ce qu'on appelle l'écologie politique, une vision qui consiste presque à dire que l'homme est nocif pour la nature et que donc le problème, c'est l'homme. Mais cette notion arrive à faire dire à certains de nos jeunes, il ne faut plus avoir d'enfants parce que il faut réduire la croissance. Ça veut dire que s'il n'y a pas de croissance démographique, les gens vont mourir de faim. Donc c'est absolument aberrant comme raisonnement. Mais il y a une vision extrêmement mortifère vis-à-vis de l'humain. Et je pense que ce n'est pas le sens de ce
c'est
qui est écrit
tout,
dans
l'ordre. Ce n'est pas du tout le sens de l'encyclique. Et un des piliers de l'écologie intégrale, c'est l'espérance.
Voilà, c'est là,
là où c'est l'espérance, et c'est le gros intérêt de ce texte, en fait, c'est que ça montre qu'il y a des solutions. Que les solutions... Mais par contre, les solutions, ça sera à nous, ça sera à nous de les trouver. Donc j'ai parlé de l'appel à la conversion tout à l'heure. Deuxième point très important, la poursuite du bien commun. Et donc l'encyclique dénonce le paradigme technoscientifique, la mobilisation de technologie, consommation des ressources, sans avoir un sens, sans avoir une finalité très précise. Et donc là, l'intérêt de ce texte, c'est qu'il fait appel à la raison, il fait appel à l'écologie, il fait aussi appel aux technologies, mais dans une perspective bien particulière, qui est celle de la poursuite du bien commun.
Voilà, c'est-à-dire que le texte n'est pas contre le progrès scientifique et technique qui est associé, mais dans le respect du bien commun.
Voilà.
Et c'est une des difficultés, parce que là encore, aujourd'hui, on entend beaucoup de gens dire le problème, c'est le capitalisme, c'est l'accumulation de richesses, l'accumulation de savoir, etc. Donc, ils sont dans une perspective nihiliste, et je pense qu'ils font fausse route. Et le pape nous donne une autre vision. C'est exactement ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez développer un peu ça?
Mais alors après...
L'espérance n'est pas évidente dans notre monde.
Non, l'espérance n'est pas évidente, mais le premier point quand même, c'est la conversion individuelle et donc le changement d'un certain nombre de nos pratiques.
Par exemple?
Alors par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Alors je vais plus parler de la partie agricole que je connais le mieux.
Bien sûr.
Une première décision assez simple qu'un certain nombre de nos concitoyens ont pris et qui se généralise, c'est manger moins de viande.
Ouais.
Une des manières en fait de réduire la pression de l'humanité sur l'environnement, c'est de réduire notre consommation de viande. Donc dans les pays développés, on consomme trop de viande et donc on peut réduire sans aucun problème notre consommation de viande d'un tiers. Ça, c'est bon. Il y a plein de petites mesures comme
sans
ça.
Sans passer dans l'excès du tout végétarien.
Non,
parce que nous sommes quand même des omnivores, donc nous avons besoin de protéines animales.
Nous sommes quand même des omnivores, et si on veut arriver à nourrir l'ensemble de l'humanité, il faut combiner agriculture et élevage. Pour des raisons en fait de fertilité des sols, de cycle des éléments naturels, en fait, il faut combiner agriculture et élevage. Ça s'est toujours fait comme ça. Et c'est une des choses qu'il faut absolument faire.
Donc il faut lutter contre l'excès de consommation de viande, ça ne veut pas dire supprimer totalement la viande dans nos assiettes.
Un point qui est excessivement important, c'est que donc, au niveau agricole, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est ce qu'on appelle la transition agroécologique. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, le pape a introduit l'écologie dans la doctrine sociale de l'Église, et nous, en fait, on a introduit l'écologie, et on a marié l'écologie avec l'agronomie. C'est ça qui m'a vraiment intéressé dans la Laudato Si, c'est qu'en fait, au niveau du rôle pivot de l'écologie, on se retrouve complètement. Et donc,
Est-ce que vous pouvez nous prendre des exemples de recherches qui sont menées à l'INRA dans ce domaine de l'agroécologie?
L'agroécologie, en fait, c'est plus s'appuyer sur le système naturel pour produire notre alimentation et utiliser les mécanismes de la nature pour notre alimentation. Donc un exemple, un premier exemple qui est assez classique, c'est l'agriculture biologique, mais en fait il faut aller au-delà de ça. Et donc un autre exemple, c'est l'agriculture de conservation des sols. On s'est aperçu que le sol, c'est une denrée, c'est une ressource extraordinaire, et en fait avec nos méthodes simplificatrices, en mettant des engrais et des pesticides, on a eu tendance à faire l'impasse sur le sol. Aujourd'hui, il faut qu'on utilise moins d'engrais, moins de pesticides, et donc il faut qu'on redonne au sol toute sa richesse.
Parce qu'il s'auto-régénère ?
Parce qu'il s'auto-régénère. Et en fait, donc l'agriculture de conservation, c'est une agriculture dans laquelle il n'y a pas de labour, il n'y a plus de labour, dans laquelle le sol est couvert pendant l'ensemble de l'année. Donc il y a des cultures intermédiaires. Et on s'aperçoit que les agriculteurs... Alors donc il y a un nombre d'agriculteurs qui ont fait ça en France déjà.
Donc il n'y a plus de labour, mais est-ce qu'on peut semer un champ de blé sans labourer avant ?
On peut semer sans labourer. Bon, il faut adopter des pratiques culturales spécifiques pour que ça pousse. Hein. Donc c'est pas, c'est quelque chose à la limite qui est plus sain, plus difficile que de mettre un passage de glyphosate, de passer la charrue, de semer. C'est beaucoup plus difficile.
Alors je vais me faire l'avocat du diable, mais beaucoup d'agriculteurs nous disent si on supprime le glyphosate, par exemple, nous on ne sait pas cultiver tel ou tel produit, par exemple des betteraves dans le nord de la France, parce que ça coûterait extrêmement cher, excessivement cher, d'arriver à faire pousser des choses sans désherber avant, et donc ce n'est absolument plus rentable.
Alors, il y a des gens qui disent ça.
Enfin, c'est plus rentable. Ou alors, ça sort à un prix qui fait que beaucoup de gens ne pourront plus le consommer.
Il y a des gens qui disent ça, mais il y a un ensemble d'agriculteurs qui ont démontré que ce n'était pas vrai. Et qu'on pouvait cultiver des betteraves sans labourer et sans désherber.
Et sans désherber.
Voilà. Donc, alors, c'est des choses qui ne sont pas simples, qu'il faut réinventer. Et une des difficultés, c'est qu'en fait, la méthode engrais-pesticides, l'intérêt, c'est qu'en fait, on l'appliquait à peu près partout pareil. Là, ces nouvelles solutions, il va falloir les adapter à chaque territoire. Ce qu'on fera dans l'Aude ou ce qu'on va faire dans la Somme, du fait du contexte pédoclimatique, sera complètement différent. Mais il faut qu'à chaque endroit, on trouve des solutions. Et alors, vous avez souligné un point important, il y a un aspect économique qui est important. Et donc, il faut bien qu'on soit conscient que nous, consommateurs, on a un rôle à jouer dans cette opération-là. Et donc, il faut qu'on accepte qu'on mette en place un système économique qui permette de mieux rémunérer les agriculteurs qui s'engageront dans cette transformation. Et donc, cette transformation du système agricole, en fait, doit se traduire par une transformation du système alimentaire. Et de ce fait-là, le consommateur que nous sommes tous a un rôle important à jouer pour favoriser cette transition.
Moi, je comprends tout ça très bien, mais le problème, c'est quand même qu'on est confronté aujourd'hui à encore un accroissement de la population mondiale, hein, puisque on pense que la population mondiale va se stabiliser autour de 10 milliards d'individus avant la fin du siècle, sans doute en 2050, hein, les prévisions démographiques sont quand même un des rares domaines où on peut prévoir sur le long terme. Donc ça, ce sont des données fiables. À partir de 2050, la population mondiale va se stabiliser. N'empêche qu'on n'y est pas encore. On est un peu en dessous de 8 milliards. Donc ça veut dire des bouches nouvelles à nourrir. Et c'est vrai que vous l'avez dit, on a réussi à régler le problème des grandes famines que connaissait l'humanité dans les siècles précédents. C'est un progrès considérable. Mais il ne faudrait pas que les transformations des modes de production nous ramènent en arrière. Donc c'est une difficulté quand même.
C'est une difficulté, et pour noircir un peu plus le tableau, il y a un facteur que vous avez oublié qui est le changement climatique.
Et en plus là-dessus, voilà. Oui,
avec des phénomènes d'immigration. Donc, en fait, le changement climatique nous indique un peu la solution. C'est-à-dire que du fait de la contrainte du changement climatique, il faut absolument qu'on joue sur la réduction des gaz à effet de serre. Et donc qu'on décarbone notre économie et notre agriculture. Et donc cette transformation agroécologique, c'est une nécessité. Donc là, il y a deux solutions. Soit on commence à faire les choses maintenant, soit on attend une grande catastrophe pour vraiment s'y mettre. Et quand j'analyse ce qui s'est passé avec le Covid, en fait, le Covid, qui était une crise profonde, nous a permis de faire des choses qu'on pensait être impossibles. Dans le cas du changement climatique, est-ce qu'on va attendre d'avoir un très très gros problème pour vraiment s'y mettre ? Ou est-ce qu'on commence à s'y mettre maintenant, doucement, et bon, dans des conditions un peu plus faciles ? Donc en fait, que ça plaise ou ça plaise pas, il faut qu'on fasse cette transformation. C'est difficile, oui, c'est difficile, mais il faut qu'on le fasse.
Ce que je trouve de particulièrement stimulant dans Laudato Si, c'est justement l'espérance. C'est-à-dire que ce que vous venez de dire donne la foi, montre qu'il est possible de croire en l'homme pour trouver des solutions, et pour trouver des solutions équilibrées. Et que c'est sûrement pas en renversant la table ou en disant « il ne faut plus avoir d'enfants et puis ça va régler le problème de la Terre ». Non, l'homme est capable de trouver des solutions et, comme le dit le pape François, en harmonie avec Dieu qui nous donne l'espérance, la nature, l'humain, l'organisation de la société. Donc c'est cette harmonie qu'il faut cultiver. Je pense que il y a une prise de conscience auquel participent les scientifiques comme vous, qui est assez stimulante, assez encourageante.
Et ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde cette démarche agroécologique, elle est liée en Amérique latine, avec un certain nombre de chercheurs qui étaient très perturbés par la profonde crise agricole qu'il y avait notamment au Brésil. Donc François vient d'Argentine. Oui. Et en fait, c'est un peu la même mouvance intellectuelle, en fait. Et dans Laudato Si, en fait, le point de départ, c'est le cri des pauvres, donc notamment en Amérique latine, et le cri de la terre, donc cette crise écologique.
Oui.
Donc c'est très intéressant de voir que, en fait, les deux sont assez proches. Et par contre, ce qui rend optimiste, en fait, il y a des éléments rationnels qui rendent optimiste, qui permettent d'espérer. C'est qu'en fait, dans les pays du Sud, il y a un certain nombre de démarches agroécologiques qui fonctionnent excessivement bien. Et donc des agriculteurs qui ont réussi à modifier leurs pratiques, à diminuer considérablement les engrais et les pesticides et à continuer à produire.
Et à produire suffisamment pour nourrir...
Voilà. Et donc on trouvera une solution, on arrivera à nourrir tout le monde en consommant moins de carbone fossile.
Avec le grand défi du réchauffement, c'est-à-dire des régions qui vont devoir se reconvertir aussi en termes de production. On le voit déjà un peu dans certains pays méditerranéens où la vigne a de plus en plus de mal, où les oliviers ont de plus en plus de mal, etc. Bon. Mais il y a aussi, alors je voulais vous demander ce que vous en pensiez. On me dit parfois, le réchauffement climatique, bien sûr, va rendre des régions un peu hostiles pour la production agricole, mais en même temps libère d'autres régions, plus au nord, notamment en Sibérie, dans le nord du Canada, etc., où il y a des ressources potentielles considérables avec le réchauffement. Est-ce que c'est vrai?
Alors, c'est sans doute vrai, mais ce qui est quand même très, très inquiétant, c'est qu'il y a des régions, en fait, du sud, quoi, des régions autour de l'équateur, qui vont devenir inhabitables. Et ces régions, aujourd'hui, sont très densément peuplées. Et donc ça va poser un problème très très compliqué. Et les quelques hectares, même si c'est des milliers ou des millions d'hectares qui vont être libérés plus vers le nord, je pense que ça ne suffira pas à régler le problème. Voilà. Après, ce changement climatique, c'est quelque chose de très compliqué. En fait, certes, il y a une augmentation de la température, mais il y a beaucoup plus d'autres choses. Et notamment, bon, actuellement, on est frappé par l'occurrence d'événements extrêmes, d'événements très violents. Et ça va être aussi très très compliqué à gérer.
Eh oui, avec des risques d'inondation,
d'incendie,
de tornades, etc.
De submersion des côtes aussi. Hein. Je pense qu'il y a un pays comme le Pakistan, en fait, ou le Bangladesh, vont avoir des gros soucis d'envahissement par la mer.
Et donc, inévitablement, les migrations de population se feront par la force des choses.
Alors, des migrations de population, dans l'histoire de l'humanité, il y en a toujours eu.
Il y en a toujours eu.
On a tendance à l'oublier. Et donc, oui, c'est vrai que ça va être un des problèmes qu'il va falloir qu'on gère.
Et on le voit déjà, hein, que ces problèmes d'immigration sont compliqués à gérer. Mais là aussi, finalement, Laudato Si nous dit il faut intégrer la dimension politique du problème. Vous êtes d'accord avec ça,
oui,
j'imagine.
Oui, tout à fait. Bon. La dimension politique est excessivement importante. Et quand on regarde le développement agricole d'un certain nombre de pays, en fait, il y a un certain nombre de pays qui ont un très beau potentiel agricole, mais qu'on n'arrive pas à utiliser du fait de problèmes de gouvernance. Ouais. Et c'est là aussi notre responsabilité individuelle est engagée. En fait, ces problèmes de gouvernance, c'est en théorie des choses assez simples à résoudre. Mais on perd beaucoup de potentiel du fait d'une mauvaise gouvernance.
Ouais. Bon. Eh bien, Hubert de Rochambeau, notre temps est écoulé trop vite. Merci pour ces éclairages d'un scientifique de l'agronomie sur une encyclique qui a fait beaucoup parler lorsqu'elle est sortie. Je rappelle que l'encyclique Laudato Si date, de 2015, du mois de mai 2015, mais qui est toujours d'actualité, je dirais même de plus en plus d'actualité, et qui nous redonne un espoir dans l'humanité et dans l'espérance que nous donne notre foi pour que l'humanité trouve les solutions aux problèmes de la terre en général qu'elle habite. Merci Hubert de Rochambeau.
Merci.